À la radio du cinéma, on a toujours l'ambition de parler de cinéma de manière 360. Et aujourd'hui, on a un ambassadeur, s'il en est un, au nom de Pip Chodorov. Et on va évoquer le cinéma expérimental. Bonjour Pip.
Bonjour.
Bienvenue à la radio du cinéma.
Merci, plaisir.
Je vous ai rencontré tout récemment dans le cadre d'un projet en fait, qui fait la lumière sur un nouveau livre qui vient de sortir aux éditions de l'Œil, qui s'appelle « À la croisée des mondes », qui met en lumière le travail de Patrick et Michel Bokanowski. Oui. Et c'est par cet intermédiaire que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer.
Oui.
Vous êtes aujourd'hui, donc vous partagez votre vie, vous êtes né à New York, vous partagez votre vie entre la France, où vous allez nous parler de cette structure qui s'appelle « Revoir », et la Corée du Sud, puisque vous habitez également là-bas, vous êtes professeur, vous donnez des cours à l'université de Séoul autour du cinéma. Racontez-nous un petit peu cette histoire de départ.
Je suis arrivé de New York à Paris en 88. J'avais 23 ans. J'avais fait des études, un peu de cinéma, mais pas trop.
On va préciser que vos parents étaient déjà dans le milieu.
Oui, mon père faisait des documentaires pour la télévision, ma
D'accord.
mère est peintre. J'ai fait des films dès l'âge de 6 ans, en grattant la pellicule, en peignant la pellicule, en faisant de l'animation comme un jouet. Et j'ai vu beaucoup de films projetés dans le salon. Mon père avait un projecteur 16 et j'ai su le charger et de projeter dès l'âge de 4 ans. À l'université, j'étais déçu par les études proposées, donc j'ai fait autre chose. J'ai fini avec un diplôme de sciences cognitives. Mais lors de ces études-là, j'avais appris un peu de la sémiologie. Et ce qui m'intéressait à l'époque, c'est de savoir en quoi le cinéma est un langage. Et j'avais compris qu'à Paris, on étudiait vraiment la question, la sémiopragmatique du cinéma, à Paris 3, la Sorbonne Nouvelle. Et je suis venu en 88 pour prendre des cours de ces professeurs qui sont comme Raymond Bellour,
Marc Vernet, Philippe Dubois,
Jacques Aumont.
Qui sont véritablement en fait vos inspirations aujourd'hui et qui ont contribué à votre intérêt finalement à ce fameux cinéma expérimental.
Mon intérêt avec eux, c'était la sémiologie du cinéma
okay.
et l'analyse profonde des films et le rapprochement entre le cinéma et la photo, le cinéma et la littérature, le cinéma et la peinture. Et surtout, je n'ai pas évoqué Roger Rodin, qui était un grand spécialiste de sémiopragmatique, d'une analyse qui, en fait, pour moi, rapprochait la science cognitive au cinéma, qui pour moi était intéressant. Mais en fait, avant de venir en France, j'avais un boulot chez Orion Classics, une distribution, un distributeur de films longs-métrages, fiction aux États-Unis, et j'ai appris sur le tas un peu l'industrie de distribution de films. Et j'étais déjà dans le milieu, mon père travaillait à la télévision et son père à Hollywood, je connaissais assez bien. Et puis moi-même, je faisais des films. Donc cette approche linguistique, psycholinguistique, neuroscientifique de cinéma en tant qu'objet expérimentation, c'était rien à voir avec le cinéma expérimental. Mais finalement, si, pour moi, je m'approchais à un cinéma pur, un cinéma à savoir comment le cinéma peut provoquer des perceptions différentes. Chez le spectateur.
Alors, pour vous, en fait, le terme cinéma expérimental, c'est un terme assez précis. Racontez-nous un peu comment ce courant de pensée dans l'univers du cinéma vous a croisé. Est-ce qu'il y a véritablement un personnage ou une personnalité qui a ouvert vos chakras et vous vous êtes dit « c'est ça que je veux faire ». Et puis aujourd'hui, en fait, comment est-ce qu'on reçoit donc, le cinéma expérimental? Et racontez-nous un petit peu comment ce courant de pensée cinématographique existe à travers le monde, comment aujourd'hui vous l'avez fédéré. Expliquez-nous un peu tout ça.
Alors, c'est des grands axes de discussion.
Bien sûr.
Moi, j'ai agrandi dans un milieu de cinéma divers. Donc, on pouvait projeter à la maison. Et à l'époque, les cinéastes indépendants, mais hyper indépendants, les cinéastes qui me concernent, n'avaient pas les moyens de faire du 35, mais ils voulaient quand même faire un format stable, solide. Donc, c'était le 16 mm qui ouvrait les portes à l'expérimentation. Mon père ramenait les films à la maison qu'on pouvait projeter, aussi bien des films de fiction que documentaires ou expérimentaux, des films abstraits carrément, parce que son documentaire portait sur des arts divers et variés, musique, littérature, peinture, théâtre, cinéma, danse. Donc il a fait quelques documentaires sur les cinéastes expérimentaux et on a vu des films. pour moi, il n'y avait pas de distinction. Le cinéma, c'est du cinéma. Par contre, le cinéma expérimental, c'est une sorte de catégorie un peu marginalisée. Et le mot expérimental est un petit peu mépris pour les artistes, parce qu'on ne dirait pas un peintre expérimental ou
un photographe expérimental.
Voilà, c'est un art à part entière. Et du coup, le mot expérimental vient de la science, ça vient d'expérimentation scientifique. Et ça remonte même aux impressionnistes qui étaient dans les salons des refusés, l'avant-garde, un peu mis de côté. Même si c'est ces artistes-là qu'on se souvient mieux que les artistes confirmés de l'époque, les cinéastes expérimentaux rejettent un peu ce terme. Ils privilégient les termes plus focalisés, par exemple le cinéma différent, le cinéma alternatif, le cinéma underground, le cinéma jeune. Voilà, le jeune cinéma, c'est un jeune cinéma qui se rafraîchit, qui est toujours en devenir. Et qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un cinéma qui joue avec les codes, qui joue avec la matière, qui questionne, qui interroge la matière cinéma. Le plus important, c'est de réfléchir à qu'est-ce que c'est comme médium, le pellicule, la matière plastique, l'émulsion, le flicker, le grain, l'écran. L'écran n'est pas une fenêtre vers un monde fictif ou imaginaire. L'écran, c'est un canevas. On va travailler comme un espace de peinture. Donc il peut y avoir tout et n'importe quoi qui se passe sur cet écran. Il y a des films expérimentaux qui sont peints, la pellicule, qui sont abstraits. Il y en a qui utilisent des films repris, des found footage, un peu comme Duchamp a utilisé une toilette, mais en image. On reprend des films hollywoodiens pour faire autre chose, par exemple. Il y a des films expérimentaux qui sont comme des journaux filmés, un peu comme des films de famille. Spontané, filmé sur le vif, sans scénario, sans personnage.
En quelque sorte, il y a une distorsion de la matière physique, donc bien souvent de la pellicule, pour en faire quelque chose qui va être un champ d'expression, sans véritablement avoir un début, une fin, mais un terrain d'expression. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est un peu ce ressentiment que j'ai pu avoir.
Oui et non, c'est vrai tout ça. Mais il y a toujours un début et une fin, il y a toujours l'envie de faire du vrai cinéma. C'est-à-dire qu'on se met dans le noir, le film commence. C'est pas de l'art vidéo, c'est pas de l'installation sans fin. Et y a toujours envie de faire des films. Et il peut y avoir, il n'y a pas de règles. Donc il peut y avoir aussi un éclairage, un cadrage, un travail sur l'acteur. Tout est possible. Simplement, il y a une liberté totale. Et on dépasse les limites de ce que c'est comme le cinéma commercial. On n'a pas besoin d'une durée fixe. On n'a pas besoin de vendre des billets, on fait quelque chose de personnel et d'intime et d'expression de soi. Et j'avais donné deux modèles un peu pour réfléchir à ce que c'est. L'autre fois, c'était l'image de trois cercles qui se superposent,
oui.
Le narratif ou la fiction, le documentaire et l'expérimental, où il y a des croisements entre les trois.
En fonction des œuvres qu'on évoque, il peut y avoir cette fameuse convergence plus ou moins, on va dire, marquée ou présente, et qui peut nous rapprocher ou pas d'un cinéma plus traditionnel.
C'est ça. Et puis, je dois dire qu'au début du cinéma, au tout début du cinéma, tout était expérimentation.
Et il y avait... Vous faites référence, évidemment, à un personnage comme Georges Méliès, je suppose.
Oui, et même Lumière.
Et même évidemment, avant. Les frères Lumière,
même
etc.
Même Weybridge, enfin, il y a toutes les quatre figures qui ont essayé de faire du cinéma, alors qu'il n'y avait pas de cinéma. Et les frères Lumière ont défini plus ou moins qu'est-ce que c'est que le documentaire, et Méliès plus ou moins qu'est-ce que c'est que la fiction. Mais même le premier film avec du montage, par exemple The Great Train Robbery, c'était en 1903, et c'était une expérience de montage, parce que ça n'existait pas avant. Et même D.W. Griffith qui a inventé les iris, ou tout est expérimental en fait au début. Même les premières fictions sont expérimentales.
Est-ce que finalement, vous faites un peu fi de la technologie d'aujourd'hui pour tracer une route, un peu une sorte d'itinéraire bi-cinématographique, si on peut appeler ça comme ça, où véritablement vous poursuivez ces axes de réflexion, mais tout en les rendant contemporaines par rapport à votre champ d'exploration?
Je pense que l'idée, c'est que tous les films qu'on peut voir, qu'on peut faire, rejoignent cette fraîcheur du début, cette nouveauté, cette exploration vers un infini, vers un endroit qu'on ne connaît pas. il y a toujours le potentiel de faire quelque chose de nouveau et de choquant et d'intéressant. Il ne faut pas refaire, il ne faut pas réinventer la roue, il ne faut pas refaire des films d'amour, des films d'horreur, des films... C'est-à-dire que chaque film a le potentiel de nous montrer quelque chose d'inédit, d'inouï et d'exceptionnel. Et c'est dommage quand ça ne le fait pas.
Les plateformes, en fait, fabriquent littéralement des films en tenant compte des attentes des spectateurs. Quoi. Là, vous êtes l'antithèse de ça. C'est-à-dire que vous, pour le coup, vous offrez à voir des choses qui, entre guillemets, n'ont quasiment pas été anticipées, puisque c'est un peu l'inspiration de l'instant qui va véhiculer le cinéma qui est le vôtre.
Oui, on veut mettre les spectateurs dans un ovni, dans un vaisseau spatial pour l'amener ailleurs, dans un endroit où ils n'ont jamais pensé que c'était possible, et de découvrir des choses nouvelles, et enfin, voilà, de changer le monde, tout simplement.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cinéma très militant, votre cinéma,
oui,
en fait.
Oui. Hein,
clairement, alors, on va évoquer votre vie d'aujourd'hui, en particulier à Paris, puisque
oui.
Vous avez donc un commerce, on va donner l'adresse, c'est au 43 rue du Faubourg Saint-Martin, à Paris donc, qui s'appelle Revoir, avec deux points après le re. Ce commerce, en fait, il est à la fois une sorte de caverne d'Ali Baba, et en même temps, vous êtes distributeur de votre propre travail, vous distribuez les artistes qui vous inspirent le plus. Racontez-nous un peu tout ça.
Aujourd'hui, la boutique est un peu exposée dans différentes directions, mais le principe de Revoir, c'est l'édition pour le home video, pour la maison, le cercle familial, d'un cinéma qui n'est pas facile d'accès. Tous les grands distributeurs comme UGC, Gaumont, ils ont une branche home video. Et mon ambition au départ, c'était simplement de faire ça. J'étais au sein d'une coopérative de cinéastes qui s'appelle Lightcone, qui existe encore. Il faut dire qu'à Paris, il y a trois coopératives de cinéastes. Et ça fonctionne avec les cinéastes en membre et le coopératif qui essaie de montrer et distribuer leurs films au plus large, en pellicule, en argentique. Il y a longtemps, en 12, 13, 14, on a commencé à se rendre compte que les pellicules se rayaient au fur et à mesure de les projeter pour les visionnages des programmateurs qui voulaient découvrir les films en tant que programmateurs pour les montrer. Et on avait du coup demandé aux cinéastes de déposer des cassettes VHS qu'on pouvait montrer aux programmateurs. Et à force de faire ça, il y a en l'occurrence un ayant droit d'un cinéaste très important qui s'appelle Maya Deren, qui n'a pas très bien compris ce que je demandais, et a dit « Oui, vous devriez éditer les films en VHS. » Ce qui m'a donné l'idée que oui, on devrait le faire. Et qu'elle nous donnait les droits comme ça, c'était royal, parce que pour moi, c'était des films très importants. Et très vendeur, même si je considère que le cinéma expérimental se trouve dans un no man's land entre le système hollywoodien et le marché de l'art. C'est-à-dire que c'est des artistes. On ne vend pas des billets comme on fait pour Spielberg. Et en même temps, on ne vend pas des bobines comme Picasso vend des tableaux. C'est une sorte de région grise où on ne sait pas comment les cinéastes vont vivre de leur travail. Parce que les copies 16 mm, par exemple, ne sont pas collectionnables. Parce qu'ils ne montent pas en valeur. En fait, si on les montre, ils les rayent, ils les cassent, ils deviennent fragiles. Donc voilà, cet objet m'intéresse. Cette pratique m'intéresse parce que les artistes s'acharnent, ils peuvent prendre 7 ans, 10 ans pour faire un film de 5 minutes et après, comment ils vivent, comment ils rentabilisent le film. Donc, mais les films sont incroyables et riches et moi je voulais les partager. En fait, tout ce que je fais en tant que professeur, distributeur, cinéaste et autres, c'est de partager quelque chose.
Soyons factuels, comment on vit de ce cinéma aujourd'hui?
On ne vit pas. On ne vit pas de ça, on vit avec. On est un peu obsédé ou possédé par le besoin de soit de faire ce genre de film, soit de les voir, soit d'écrire dessus, de le programmer. Tout le monde est un peu pris par le bug. Enfin, voilà, c'est des gens obsédés par ça.
C'est obsessionnel, quoi.
Oui, c'est passionné. Et en fait, on se retrouve avec, comme vous dites, une communauté de gens qui sont aussi passionnés. Donc quand on édite un DVD, on sait qu'il y aura des gens qui vont l'acheter, qui vont le chercher.
Oui, ça trouve une résonance à travers le monde.
Oui, D'accord. Et c'est un marché de niche, mm-hmm. mais il y a certainement un marché.
D'accord.
Et dans chaque grande ville, San Francisco, New York, Berlin, Tokyo, il y a une personne, une poignée de personnes comme moi, qui passent leur vie à montrer des films, à distribuer des films. Le fondateur de l'anthologie Film Archive à New York, c'est un cinéaste que je distribue, qui s'appelle Jonas Mekas. Il a fondé la coopérative à New York, il a écrit des livres, il a fait des films. Pareil à San Francisco, il y avait Bruce Bailey qui a fondé une coopérative, qui a fait des films. À Berlin, voilà, il y a des exemples comme ça.
Vous-même, vous avez fait un film, on peut en parler, où vous avez une sorte de documentaire, pour le coup, puisque vous, vous avez aussi une démarche, entre guillemets, pédagogique autour de ce cinéma, puisque vous avez passé du temps à accompagner, en fait, certains de ces artistes par le biais d'un film que j'ai eu le plaisir de pouvoir regarder, où là, pour le coup, vous questionnez ces gens-là, vous les accompagnez dans leur démarche artistique. Racontez-nous un petit peu cette expérience.
Alors, j'avais vu un film de Wim Wenders sur les bluesmen,
oui.
qui s'appelle Soul of a Man,
okay.
à Cannes. Et le premier plan du film, c'est un satellite qui traverse l'espace avec une voix off qui dit « Je suis mort en 1958 sans un sou, mais ma voix traverse le système solaire pour représenter la musique blues américaine. » Je m'appelle Big Bill Brunzi. Et ça me dit quelque chose. Ça me dit, ben, quelqu'un devrait faire ça pour les cinéastes qui sont des cochons d'Inde, des pionniers, et qui sont pauvres et que personne ne connaît. Et j'ai parlé un peu autour de moi, à des amis, de cette idée de faire un film sur les cinéastes expérimentaux. Et tout le monde me dit, ben oui, c'est toi qui dois le faire. Mais comme je suis un peu partout avec plein de projets et je n'ai pas beaucoup de temps libre, ben, je n'ai pas commencé à faire un film comme ça. Ça demande beaucoup de travail. Et enfin, il y a un ami qui a trouvé un producteur qui a été pris par le sujet et qui voulait produire mon film.
Alors, ce film, il s'appelle Free Radicals.
Oui, une histoire.
Une histoire, voilà.
Ou l'histoire.
Voilà. Du film expérimental, voilà. Et donc, objectivement, quelqu'un qui n'est pas du tout initié par ce type de cinéma, qu'est-ce qui pourrait le rendre curieux? Alors, des films en salle, on n'en voit jamais quasiment.
Ça, non, ça existe, mais dans certaines villes comme Paris, New York, il y a des séances régulières. À Paris, il y a beaucoup, il y a peut-être chaque semaine une séance de cinéma expérimental.
Dans quel type de cinéma, pour le coup?
À l'Archipel, on a fait des séances au Grand Action, ou à La Clé.
Au Forum des Images, peut-être, non? On
peut voir avant, des choses. Oui, un peu moins maintenant.
Un peu moins maintenant.
La salle dans le 5e, la Lucarne, ça s'appelle,
qui
est risque de fermer.
D'accord.
Comment dire, il y a des assos ou des gens qui louent des salles pour montrer ça parce que ça leur donne envie et parce qu'il y a un public. Il y a même une salle qui n'est pas une salle mais qui s'appelle Espace en cours. C'est D'accord. dans la rue de la Réunion où il y a une association qui s'appelle Braquage qui organise chaque mois des séances de cinéma expérimental. Voilà, il y a des salles marginales, alternatives, etc.
Est-ce qu'il existe un festival ou des festivals dans le monde
oui,
sur
Paris,
le cinéma expérimental?
À Paris, en octobre, il y a le Festival des cinémas différents,
D'accord.
qui est tenu par le collectif Jeune Cinéma. C'est un festival qui a longue histoire, parce que ça a commencé dans la ville du Sud qui s'appelle Hier.
Hier, à côté de Toulon, absolument.
Oui, ouais. En 68-69, il y avait un festival du nouveau cinéma.
D'accord.
Et, il y a un programmateur qui s'appelle Marcel Mazet qui a commencé à programmer des films expérimentaux et qui a fondé en 70 la coopérative à Paris, le premier qui s'appelait le Collectif Jeune Cinéma qui existe encore, qui continue. En l'occurrence, je suis le président cette année parce que c'est à tout le rôle. Et on fait toujours une version de ce festival.
D'accord, d'accord. Vous avez les dates officielles pour cette année?
Oui, ça doit être du 10 au 18 octobre, quelque
d'accord.
chose comme ça.
Et dans quelle salle de cinéma du coup?
Alors, ça va être à l'Archipel.
À l'Archipel.
Et dans différents petits lieux autour.
Ok, d'accord. Mm. On essaiera de mettre le lien si vous avez un...
Bah, on peut aller voir au cjcinema.org déjà.
Ok, on mettra le lien. Oui. On mettra le lien dans les bonus de l'entretien.
Oui.
Quelqu'un qui veut avoir la curiosité, qui habite, je sais pas, à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, comment est-ce qu'il peut croiser votre cinéma et de quelle manière? Il y a une sorte de communauté, un site vraiment référent dans lequel on peut trouver de l'information, du flux d'informations autour de cet art de faire du cinéma?
Oui. Quand j'ai travaillé à l'ICON dans les années 90, les films étaient loués par beaucoup d'associations dans ces villes.
D'accord.
À Strasbourg, à Toulouse, à Marseille.
Okay.
Et ça continue.
Ah,
ça n'a pas arrêté. C'est peut-être pas tous les jours ou toutes les semaines, mais ça existe. Ensuite, nous, on vend des DVD, les gens nous achètent à distance sur notre site web, revoir.com, retirevoir.com. Mm-hmm. Et on a lancé, il y a à peu près 5 ans, une application mobile qu'on peut télécharger partout dans le monde, même en Afrique, en Asie, ça existe partout. C'est Google Play ou Apple Store, ça s'appelle Revoir Online. Et on peut télécharger l'application et commencer à découvrir ce cinéma-là. Le premier mois est gratuit, après c'est à peu près 8 euros pour un mois.
Okay.
Mais il y a 500 films en ligne et okay. on peut commencer.
Oui, ça peut permettre de découvrir, en fait, finalement c'est une autre façon de faire du streaming, mais avec du cinéma justement expérimental.
Comme les grandes plateformes comme Netflix, ils s'en foutent de nos films, il fallait faire notre propre plateforme.
Bien sûr.
Donc
bien
on est un peu le Netflix du cinéma expérimental.
D'accord. Dans ce commerce Revoir, on peut croiser des caméras Super 8 ou des caméras 16 mm. Vous êtes certainement un des rares sur la place de Paris, et peut-être même en France, à tenir à disposition des pellicules. Ça coûte combien pour acheter une pellicule en Super 8 ou en 16 mm à faire développer Vous pouvez nous donner un ordre de grandeur à peu près de combien ça coûte
On trouve toujours des pellicules pas très chères. On peut acheter une pellicule noir et blanc pour genre 38 euros, ou 40 ou 50.
Il y a un développement qui est compris derrière.
Pas compris. Il faut acheter, il faut payer le développement dans un labo, mais il y a beaucoup de cinéastes qui développent eux-mêmes à la main dans la chambre noire.
D'accord.
Ça coûte rien.
Vous vendez tout le matériel pour faire ça
On ne vend pas le matériel pour faire ça, mais ça se trouve. Hein, c'est une pratique qui n'a pas trop bougé depuis 100 ans.
D'accord.
Et on peut même développer dans du café. Donc il y a toutes sortes de procédures alternatives à explorer qui donnent des images différentes. Il y a même une marque de bière qui est censé de se doubler en révélateur.
Pip, c'est ça qui est fabuleux dans votre univers à part entière, c'est que nothing is impossible. On peut véritablement explorer en permanence. Les résultats peuvent être satisfaisants ou carrément à côté de la plaque, mais ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est d'expérimenter. Vous êtes dans cette philosophie, hein?
Oui, et il faut aller plus loin et trouver de nouvelles choses à faire.
D'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça dit de vous, le cinéma expérimental?
Pour moi, c'est une philosophie de vie. Revoir, ça s'écrit re-voir, parce que ça a toujours évoqué pour moi le fait de voir, la vision pure, à propos de la vision, et que comment les cinéastes voient le monde. Parce que quand on entend parler quelqu'un comme Peter Kubelka, ou Robert Breer, ou Jonas Mekas, qu'est-ce que c'est que le cinéma pour eux? On se rend compte que c'est complètement différent des autres. Ils ont une pensée vraiment focalisée sur quelque chose. Soit c'est le montage métrique, soit c'est le tournage image par image, les collisions d'images, soit c'est le prix de réel sur le vif. Il y a toujours une approche complètement, travaillée, focalisée, évoluée, mais qui est différent des autres. Et à chaque fois, je suis convaincu. Ah oui, il a raison, c'est ça le cinéma. Et après, j'entends parler quelqu'un. Ah oui, non, en fait, c'est ça le cinéma. Et c'est incroyable comment le cinéma peut être apprivoisé par un tel ou un tel. Et ça change complètement ce qu'on peut faire, ce qu'on fait, ce qu'on arrive à faire. On va très loin dans une direction donnée. Et chacun trouve quelque chose. Et j'avais dit à un moment donné que le cinéma hollywoodien, c'est un cinéma centripète parce que ça se veut centralisé vers les choses qu'on connaît. On refait les mêmes films parce que ça fonctionne, parce que ça fait de l'argent. Mais les cinéastes expérimentaux sont dans un système plutôt centrifuge parce qu'ils sont au plus loin du centre possible et vers les frontières de ce qui est possible, toujours en train d'explorer plus loin et en différentes directions. Et si on dit à un cinéaste expérimentaux, ah, je vois. Ces films, c'est un peu comme ce que fait Bokunovsky ou Brakhage, la personne va dire, mais non, c'est différent parce que tout le monde se démarque des autres.
Oui, c'est ça, c'est que chaque artiste a véritablement un champ identitaire qu'il explore et il n'y en a aucun qui se ressemble en fait, finalement.
Et heureusement.
Et ouais. On arrive au terme de cette interview, cher Pip. Donc, il y a une tradition à la radio du cinéma. Je vais vous demander néanmoins si vous voulez bien me donner votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée.
Mon film préféré, c'est un film que j'ai vu quand j'avais 3 ans.
Ok.
Même avant que c'est sorti, je pense. Mais je me trompe peut-être parce que j'étais trop petit. Mais c'est le film qui s'appelle 2001, Odyssée de l'espace.
Ah oui.
Et c'est un film que j'ai vu vraiment beaucoup parce que mon père a fait un documentaire sur ce film. Mm-hmm. Et du coup, il avait obtenu des copies 16, 35 pour prendre des photos pour le documentaire. Et la personne qui a prêté la copie a quitté l'MGM sans demander les copies. Donc, on les a toujours.
Okay.
Et j'ai projeté assez souvent ces films. Et en l'occurrence, ce qui est drôle, c'est qu'on est le 13 juillet aujourd'hui, 2026. Et le film passe à Paris ce soir au Grand Rex en 70 mm. Et je vais le voir. C'est un film que je vois à chaque fois que c'est possible de le voir dans les bonnes conditions. Si jamais ça passe à la télé ou en VHS, je m'ennuie, je m'endors. C'est pas fait pour et je déconseille. Mais en grand écran, c'est un film vraiment bouleversant. Et j'ai beaucoup réfléchi, écrit sur ce film, montré ce film et expliqué ce film. Pour moi, il n'y a pas de mystère dans ce film. C'est un film qui fait sens et c'est un film expérimental parce que pour moi, c'est un film sur la lumière, sur la réflexion, sur la conscience de soi, sur le cinéma en tant que révélation. Pour moi, le monolithe, c'est un écran et la lumière qui tape cet écran crée l'intelligence. Et je pense que le message derrière le film, même si c'est sous-jacent à l'histoire, c'est un sens profond du fait que le cinéma peut nous illuminer.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
On va parler de votre musique préférée désormais.
Alors, la musique préférée, j'ai choisi la musique du film de Woody Allen qui s'appelle Stardust Memories. C'est un film de 79.
Ok.
J'ai joué dedans en tant que figurant.
Ah, marrant.
Et j'avais 14 ans. Et du coup, c'est un film qui m'a marqué parce que j'aime beaucoup les films de Woody Allen, surtout les débuts de sa carrière, mm-hmm. les films comiques. Et dans le film Stardust, il se moque des gens qui aiment que ses premiers films comiques. Parce que pour lui, dans ce film, son personnage dit qu'il faut faire des vrais sujets, il faut trouver une guérison pour le cancer, il ne faut pas juste faire des films drôles. Et tout le monde lui dit, mais si, vous êtes bon à ça, il faut ça. Donc moi, je trouve que ce film résonne bien. Et la musique, c'est une musique de jazz comme Louis Armstrong ou d'autres, Django Reinhardt, et des musiques pas très connues. Donc à l'époque, quand j'avais 14-15 ans, je suis allé chercher ces musiques. Et il n'y avait pas de disque du film. Et la musique était disponible, mais par-ci, par-là. Le Django, c'est là. Un autre, c'était vraiment difficile à trouver. Et j'ai fait un peu de recherche. J'ai passé quelques mois à acheter des disques vinyles de chaque piste. Et j'ai constitué un mixtape pour moi, des musiques de films, alors qu'il n'y avait pas de disques disponibles. J'ai beaucoup aimé Louis Armstrong et la scène où on entend la chanson, justement, Stardust. C'est un plan long, une prise très longue, de Charlotte Rampling qui mange une glace et la caméra qui le regarde, comme si c'est le personnage de Woody Allen qui regarde. Mm-hmm. Et c'est une scène très émouvante. Donc, la coïncidence d'image et de musique, on laisse la place à la musique finalement. C'est une prise d'une minute et demie avec Louis Armstrong qui chante et Charlotte Rampling se prend dans le jeu de quelqu'un qui regardait par bon, le protagoniste, mais aussi par les spectateurs. Et elle est consciente de soi, elle est gênée, elle est timide, après elle sourit, après elle rigole, après elle mange sa glace. Ouais. Et c'est un film expérimental.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, ouais, d'accord. Et donc, pour terminer cette interview, vous allez me donner votre réplique préférée.
Ben alors, je pouvais prendre n'importe, mais enfin, j'ai choisi la réplique de Jonas Mikas, qui, dans son film de 68, Walden, qui est son premier grand frise épique de journal filmé, qui couvre des périodes de 1964 ou 5 jusqu'en 1968. Il dit vers la fin du film, il dit, je vis, alors je fais des films de famille. Je fais des films de famille, alors je vis. Enfin, il dit home movies. I live, so I make home movies. I make home movies, therefore I live. Il commence à chantonner ça. Et ça devient son credo un peu.
Okay.
Que la vie et le film se fusionnent et que le film, c'est là, sa vie. Et sa vie, c'est un film. et qu'il n'y a pas de distinction parce qu'on a toujours la caméra sur soi, on filme tout. Et les images de sa vie deviennent les images qu'on partage et qu'on montre. Et après, tout le monde qui connaît son cinéma connaît sa vie. Et sa famille, ses amis, et sa pensée, et voilà.
Donc je rappelle votre nom, donc Pip Chodorov, et votre commerce donc, qui s'appelle Revoir, qui se situe donc au 43 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris dans le 10e, où on peut véritablement découvrir, mais c'est la caverne d'Ali Baba, hein, ceux qui s'intéressent un peu au cinéma, aux caméras des années 90, 2000, etc., on trouve vraiment des choses extraordinaires, et on a la possibilité, je le rappelle, d'acheter des pellicules, de les faire développer, on peut même faire réparer du matériel, vous avez des adresses qui sont des trouvailles à travers toute l'Europe, hein. Vraiment, c'est indispensable de vous rencontrer si on s'intéresse à cet environnement.
Et il y a même une galerie à côté.
Le film et il y a une galerie, effectivement.
Que j'ai créée parce que pour moi, les cinéastes, c'est des artistes, mais il n'y a pas de galerie. Les artistes qui font du film ne se trouvent pas dans le marché de l'art. Mm-hmm. Et je pensais que c'était important de reconnaître ce genre de création.
Merci infiniment, cher
Merci.
Pip. Au plaisir.
Merci, David.
Merci.
I live. Therefore, I make films. I make films, therefore I live. Life, movement. I make home movies, therefore I live. I live, therefore I make home movies.